Normalement, vous auriez dû écouter l'hymne italien, du fait qu'il a été composé en 1847-48, en pleine exaltation patriotique qui précédait le grand combat de 1848-49. Malheureusement, pour les Italiens, un combat perdu. Alors, l'État italien a 150 ans. C'est un État jeune. Le 17 mars, le président Giorgio Napolitano ouvrira les festivités qui dureront 3 mois et dont le sommet aura lieu le 2 juin, jour de la fête de la République, en présence des délégations des 27 États européens et des grands pays d'émigration italienne, comme l'Argentine. En effet, c'est le 17 mars 1861 que Victor Emmanuel II a été proclamé roi d'Italie à Turin. Et le 27 avril suivant, il est élu roi par le Parlement. Il y a donc deux légitimités en quelque sorte pour ce souverain. Bien entendu, c'était une nécessité après le rattachement du royaume de Naples, conquis par Garibaldi et l'expédition des Mille. Donc, le 17 mars 1861, c'est l'acte de naissance du nouvel État, qui comprend presque toute la péninsule. Certes, il manque Rome, il manque la Vénétie, mais l'essentiel semble acquis. L'unité italienne en tant que telle ne sera achevée qu'en 1870 par la prise de Rome. Alors, cette naissance d'un État italien en 1861 et la prise de Rome en 1870, la future capitale, sont des étapes très importantes de ce qu'on appelle le Risorgimento. C'est un terme qui veut dire résurrection, résurgence, et qui s'applique à ce long mouvement qui mène à l'unité italienne et qui démarre à peu près à la fin du XVIIIe siècle, qui va donc s'étaler sur près d'un siècle. Et c'est pour ça qu'avec la présidente Madame Stellen, nous avons convenu de faire deux conférences, car le sujet aurait été trop important pour une seule. Alors, le terme de Risorgimento, dans son sens historique, apparaît au XVIIIe siècle, en 1875, sous la plume d'un jésuite, qui était un homme des Lumières, et qui s'appelait Saverio Bettinelli. Mais le terme a été surtout amplifié par Vittorio Alfieri, le grand poète, le grand dramaturge italien, pour lequel, et ça va être le sens profond de ce mouvement, pour lequel le Risorgimento exprime l'attente du jour où l'Italie, et je le cite, « l'Italie désarmée, divisée, avilie, enchaînée, impuissante, ressurgira, vertueuse, magnanime, libre et unie. » Voilà les deux termes, je pense, essentiels. Donc, c'est dès l'époque des Lumières que certaines élites italiennes commencent à penser à une transformation de la péninsule. En effet, celle-ci naît... je demanderai on va voir Alfieri d'abord, dans une pose très romantique, à la Chateaubriand. Ah. Il est passé très rapidement. Voyez, donc le grand dramaturge, celui qui impose le terme de Risorgimento. Et la péninsule naît, selon le célèbre mot de Metternich, qu'il prononcera plus tard, après 1815, qu'une expression géographique, c'est-à-dire que l'Italie n'a pas de réalité historique, et dans l'esprit de Metternich, elle n'est pas appelée à en avoir une. Alors, contrairement à la France, à l'Angleterre ou à l'Espagne, l'Italie, comme l'Allemagne, est encore affligée, victime du morcellement féodal. Vous voyez, l'Italie est alors divisée en une dizaine d'États. Vous reconnaissez, c'est une carte anglaise, Vous reconnaissez donc le royaume de Sardaigne, Piémont-Sardaigne, le royaume des deux Siciles, la République de Venise, les États pontificaux au centre, et puis quelques petits États. Il y a quelques petits États que vous reconnaîtrez, Parme, Modène en ocre et en violet, et la République de Gênes. Alors tous ces États, bien entendu, ont des structures différentes, des politiques différentes, des monnaies et des systèmes différents. De plus, le royaume d'Autriche y joue un rôle très important. Vous voyez la zone en rose qui est entre la République de Venise et le royaume de Piémont-Sardaigne, c'est le duché de Milan. Or, le duché de Milan est depuis 1714 aux mains des Autrichiens, qui les ont reçus des Espagnols. Et c'est un prince autrichien qui règne sur le grand-duché de Toscane. L'influence autrichienne est donc très forte sur l'Italie du Nord et l'Italie du Centre, et même sur la République de Venise. Vous voyez qu'il y a des frontières extrêmement importantes avec l'Autriche, et qui est très affaiblie à l'époque. Or, comme en Europe occidentale, la péninsule était atteinte dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle par le mouvement des Lumières. Le mouvement des Lumières, c'est une révolution des mentalités. Et nos encyclopédistes, nos philosophes, Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, etc., en étaient les représentants essentiels. Mais l'Italie participait à ce grand mouvement. Et je ne veux citer que Beccaria. Beccaria, avec le livre qui l'a rendu célèbre, Des délits et des peines, paru en 1764, et pour la première fois, quelqu'un critiquait et demandait l'abolition de la torture et de la peine de mort. Donc c'est un personnage extrêmement important qui mériterait peut-être une conférence à la Corfu. Alors, ce livre a été aussitôt traduit dans toute l'Europe et il a eu un très grand succès. Alors, le mouvement des Lumières, l'Aufklärung des pays germaniques, ou l'illuminisme, comme on dit en Italie, touche les États italiens. Et ce mouvement des Lumières accompagne ou suscite, et suscité, c'est tout ça, c'est extrêmement mêlé, une croissance économique qui profite à une bourgeoisie urbaine, qui développe l'industrie textile dans l'Italie du Nord, qui investit dans la terre et qui veut élargir son rôle vis-à-vis de l'aristocratie et du clergé. Les souverains, sous cette poussée, adoptent alors ce qu'on appelle le despotisme éclairé. Le despotisme éclairé, cela vient de l'Autriche, des pays germaniques, et il s'agit de baser des réformes sur la raison contre la tradition. C'est le thème essentiel des Lumières. Et il s'agit d'améliorer le fonctionnement du pouvoir, mais sans abandonner la monarchie de droit divin, ni l'autorité du prince et des autorités supérieures, des couches supérieures de la société. Ainsi, il y aura un certain nombre de réformes en Italie, comme par exemple dans les États satellites de l'Autriche, dans le royaume de Naples. On va limiter le système féodal, on va diminuer les prérogatives de l'Église catholique, on abolit les corporations, on libère la production, et la Toscane va même jusqu'à abolir la peine de mort. Vous voyez, elle a bien écouté Beccaria. Alors, une école historique italienne voit dans tout cela les racines du Risorgimento. Le Risorgimento qui associe liberté et unité. Donc des racines proprement italiennes, qui viennent du pays lui-même, et non pas, comme une autre école historique le propose, Risorgimento inspiré en quelque sorte par la France. Quoi qu'il en soit, même s'il est indéniable que les élites italiennes ont été donc tout à fait imprégnées, marquées par ces lumières et par le despotisme éclairé. Le despotisme éclairé représente un progrès, mais il ne va pas assez loin pour tous ceux qui veulent retrouver la grandeur de l'Italie, c'est le sens de cette résurrection, de cette résurgence, la grandeur de l'Italie, surtout à deux époques essentielles, l'époque romaine, bien sûr, ne pas oublier que depuis 1748, il y a des fouilles à Pompéi, hein, qui peut inspirer cela, on redécouvre en quelque sorte le prestige romain, et à l'époque des papes de la Renaissance. Alors, dans ce contexte, la Révolution française suscite aussitôt beaucoup d'intérêt. Ces échos déterminent de la sympathie, par exemple, chez Alfieri. Alfieri, qui est à Paris en 1789, qui a vu la destruction de la Bastille, écrit un poème qui s'appelle « Paris débastillé ». Ou alors, ça suscite même de l'enthousiasme, comme chez Buonarroti, qui est de la famille de Michel-Ange, et qui vient à Paris participer aux événements, aux côtés des révolutionnaires, se fait naturaliser français, avant de lancer avec Babeuf la première révolution communiste de l'histoire. Alors, les loges maçonniques qui existent en Italie également vont donc répandre les idées nouvelles, dans la bourgeoisie notamment, et il y a des clubs qui vont se créer sur le modèle du club des Jacobins de Paris, et en correspondance avec lui. Vous voyez donc, les idées révolutionnaires, véhiculées par la Révolution, vont donc se gagner dans la population, tout au moins la bourgeoisie. Deuxième partie de cette conférence, c'est que tout change en 1796. 1796, lorsque le directoire, dans le cadre de la guerre contre l'Autriche, confie au jeune Bonaparte l'armée d'Italie pour une attaque de revers, les armées de Moreau et de Jourdan opèrent au long du Danube et sur le Rhin. Et dans l'esprit des maîtres du directoire, l'armée de Bonaparte doit faire diversion. Ah, c'est pas l'armée principale. Or, le génie militaire de Bonaparte va, dans une campagne de 7 mois, toute victorieuse, constamment victorieuse, opérer, vous voyez, après un cheminement au long de la mer, par un certain nombre de batailles, il y en avait 3. Alors, en marron, vous avez la marche de Bonaparte, en vert, la retraite des Autrichiens. Alors, vous avez un certain nombre de batailles qui sont très célèbres, parce que ça donne des noms de rues, des noms de stations de métro, etc. Hein, vous avez Lodi, et vous avez une des plus célèbres, c'est Arcole. Mais ce qu'il faut signaler, c'est l'entrée à Milan le 14 mai. Ça a été un véritable triomphe pour Bonaparte. Et un certain nombre de patriotes italiens sont accourus, parce que l'Autrichien était battu à plate couture. Alors, nous avons Arcole. On va donc... Arcole, vous savez que c'est le passage, le fameux pont d'Arcole, vous voyez, c'est un pont de bateau. Vous avez ici une peinture d'un peintre très modeste, mais qui suivait donc le futur empereur dans cette campagne. On peut revenir peut-être à la carte précédente. Voilà. Alors, après Arcole, vous voyez, autre bataille, Bassano, et puis la route est ouverte en direction de Vienne. Donc c'est le triomphe total en 7 mois, 10 batailles, et les Autrichiens préfèrent signer la paix de Campoformio. Alors, le général va donc réorganiser on va le revoir aussi dans une attitude très particulière. Voilà. Il est sur le pont d'Arcole. Vous savez que la propagande napoléonienne était très bien réalisée, et le futur empereur se faisait peindre dans les moments difficiles, et il paraît qu'il aurait, sur le pont d'Arcole, entraîné les troupes, ce qui est, je pense, un peu différent. Enfin, voilà, le futur, 27 ans, donc le voilà triomphant. Alors, on va passer à la carte. Alors, l'élite intellectuelle milanaise militait, bien entendu, pour une république italienne. Alors, cependant, le directoire a une politique très particulière, c'est la politique des républiques sœurs. Et en 1795, on en avait créé une, ici, en Hollande, la République Batave. Eh bien, on va appliquer cette politique avec la République helvétique, et vous voyez, on va créer la République Cisalpine, ici, République Ligurienne, la République Romaine, parce que à Rome, qui avait été occupée par les troupes françaises, un général français avait été tué dans une sorte d'escarmouche, et puis même à la fin, la République Parthénopéenne, après la conquête de Naples. Alors, ne restait indépendant que le Piémont, pour l'instant, mais il va être conquis en 1799. Vous voyez donc que toute l'Italie est réorganisée comme le directoire, et Bonaparte le font. Dans toutes ces républiques, l'organisation était identique, avec une constitution calquée sur celle du directoire, le suffrage censitaire, l'organisation administrative en département, la participation de la bourgeoisie aux institutions, la création d'une armée. La contrepartie, c'est qu'il faut s'aligner sur la politique française. Il y a des contributions financières très lourdes. La guerre nourrit la guerre et le directoire est un État en banqueroute. Donc, si on peut pressurer les peuples soi-disant libérés, c'est très bien. Il y a des réquisitions, il y a même des transferts d'œuvres d'art sur Paris. Nous n'avons pas pu mettre sur cette liste l'arrivée des œuvres d'art dans la cour du Louvre en 1798. Alors, de 1796 à 1799, cette période qu'on va appeler le triennio en Italie est vue comme une expérience positive chez les Italiens, parce que c'est considéré comme le véritable départ du mouvement unitaire. Il y a moins d'États. On prend conscience d'une sorte d'identité italienne. Il y a la perception d'un espace beaucoup plus homogène par la suppression des barrières douanières, par l'application partout des principes de 89. Même les résistances à la francisation et le désir d'obtenir des responsabilités supérieures et non pas seulement sous l'autorité des Français, eh bien, suscitent des réactions qui nourrissent ce sentiment unitaire. Et Ugo Foscolo, qui est un ardent patriote déjà romantique, écrit une ode à Bonaparte libérateur. Et de cette expérience, il prophétise l'unité future. Je le cite, « Italie, avec ses éternels rayons sur ton horizon, reparaît l'aurore. » Vois s'unir tes foules divisées dans le grand peuple. Malheureusement, en 1799, les Français sont chassés d'Italie, Bonaparte est en Égypte, et les Autrichiens suppriment les républiques sœurs avec le retour des princes, la répression s'abat sur les patriotes, contraints à l'exil, emprisonnés, voire même parfois exécutés. Mais la France revient dès 1800, toujours avec Bonaparte. Bonaparte, ici, à ce moment-là, il est premier consul. Il vient de réaliser le coup d'État de Brumaire, du 18 Brumaire. Et au printemps suivant, Brumaire, c'est le mois de novembre, au printemps suivant, eh bien, avant même la fin de la fonte des neiges, il entreprend le passage du Grand Saint-Bernard. C'est une surprise totale pour les Autrichiens qui occupent le Piémont, qui assiège Gênes, qui a résisté. Et vous voyez, c'est David qui l'immortalise dans cette posture victorieuse, avec ce grand manteau rouge, avec le vent de la victoire qui souffle derrière lui, n'est-ce pas, et qui montre par-delà les cimes le chemin de l'Italie. Eh bien, il va prendre les Autrichiens et les Piémontais en revers. Vous voyez, ils sont en train d'assiéger Gênes. Et vous voyez, c'est toujours vert, les Autrichiens, et marron, les Français. Alors, la grande bataille, là, c'est Marengo, où Bonaparte est sauvé in extremis par l'arrivée de Desaix, qui sauve la mise. Autrement, il aurait été donc vaincu et la reconquête se serait sans doute arrêtée là. Alors, nous avons Marengo également. Voilà. Bon, nous sommes un petit peu comme Fabrice à Waterloo, hein. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe sur le terrain. On voit des mouvements de troupes, des fumées, des bombardements, etc. Bien. Alors, cette fois-ci, la décision ne sera pas obtenue en Italie, mais par les armées, notamment de Moreau, qui vainc les Autrichiens à Hohenlinden, donc dans l'Allemagne actuelle. Alors, l'Autriche va signer le traité de Lunéville en 1801, et désormais, pendant 15 ans, l'Italie sera intégrée par remaniements successifs dans la construction de l'Italie napoléonienne. Alors, nous allons voir cette... j'aurais préféré voir la carte avant.
Si c'est... En
comment ?
On revient en arrière ?
Non, non, la prochaine. Voilà. Alors voilà, ça ne s'est pas fait en une seule fois. Hein. Enfin, la situation terminale est celle-ci. Vous voyez ? Alors, l'Italie va donc avoir une carte très simplifiée. Il n'y aura plus que trois États. Alors, la République d'Italie, que vous voyez en vert clair, avec comme capitale Milan, le Royaume de Naples, qui sera confié à Joseph puis à Murat, et puis la Toscane, une partie des États de l'Église et le Piémont sont intégrés dans l'Empire français, donc avec des départements français. Alors, Bonaparte va donner, on va revenir en arrière, une apparence, juridique normale à la création de la République italienne. Voilà, il a convoqué à Lyon ce qu'on appelle une consulte, on utilisait beaucoup de noms d'origine latine, à laquelle participent 400 députés italiens, dont Volta, par exemple, l'inventeur de la pile, un certain nombre d'évêques, et Bonaparte y est élu président. Mais la vice-présidence est confiée à un Italien. Voilà, Melzi d'Eril, qui est un bourgeois lombard, et disons que jusqu'en 1805, eh bien, c'est une belle période parce que Melzi est un administrateur efficace, il a un personnel de mieux en mieux formé. C'est une belle période pour la bourgeoisie qui s'enrichit par la spéculation sur les biens d'église confisqués, par la stimulation des échanges, c'est l'époque où on ouvre la route du Simplon, et également par la fourniture aux armées. Eh bien, le grand espoir, c'est que cette République italienne soit l'embryon de l'Italie future. Mais en 1805, devenu empereur, Napoléon transforme le statut de la République en royaume, dont il ceint la couronne à Milan. Advient alors une phase d'assimilation à la France et d'étroite subordination. Melzi se retire et la place est prise par Eugène de Beauharnais. Eugène de Beauharnais, c'est le fils de Joséphine, donc le beau-fils de Napoléon, qui est encore un homme jeune, et qui va donc représenter l'empereur à Milan. Alors, après Austerlitz, le royaume d'Italie va s'agrandir de la Vénétie, et en 1809, du Trentin. Donc, vous voyez, c'est un royaume déjà agrandi. Par contre, la politique napoléonienne va être une politique d'États familiaux. Alors, le principal, c'est le royaume de Naples. On va voir son souverain. C'est le fameux cavalier Murat, maréchal Murat, marié à une sœur de Napoléon Bonaparte, Caroline. Quant à la principauté de Luc et celle de Piombino, elles reviennent à une autre sœur qui est mariée avec un militaire plus modeste, c'est Elisa Bacciocchi. Et on peut ajouter à cette politique familiale le fait qu'une vingtaine de principautés ou de duchés ont été donnés en récompense à des dignitaires français. Talleyrand, par exemple, sera prince de Bénévent, Bernadotte, prince de Pontecorvo. Et puis, il y a les États annexés. Eh bien, c'est l'époque où l'influence française est très forte. Et on est en cours de tentative de francisation. Le Code civil de 1804 est adopté partout. Et il promeut l'égalité formelle devant la loi, la liberté individuelle, la sacralisation de la propriété. L'ancien régime est démantelé. Et des échanges fructueux s'établissent avec la France, qui reçoit des Italiens dans ses grandes écoles, polytechniques par exemple, et qui envoie des fonctionnaires d'élite sur place, Stendhal. L'armée est aussi un creuset national. Et les officiers qui vivent l'épopée napoléonienne sont très favorables à la France. Et toute une bourgeoisie s'initie aux affaires dans les préfectures ou dans les grands corps de l'État, des États. Il faut ajouter l'expérience d'une économie unitaire, même si un système de douane subsiste entre ce qui est français et ce qui est les deux autres États italiens, et aussi l'expérience d'une unification monétaire. Les revers de la médaille sont bien connus, je les ai donnés tout à l'heure. L'Italie fonctionne comme une colonie économique de la grande nation. Le blocus continental s'applique à l'Italie, donc les ports sont interdits de commerce avec l'Angleterre, ils sont asphyxiés, les prix montent, et si une partie de la bourgeoisie modérée peut s'accommoder de cet état de fait, parce qu'elle y trouve aussi des avantages, eh bien la paysannerie, appuyée par l'aristocratie et le clergé, le refuse et se livre à des actes de brigandage particulièrement violents dans le royaume de Naples. Le nationalisme italien s'exprime donc aussi par hostilité à la France, d'où ces deux aspects très contrastés de la présence française. Or, à partir de 1812, l'Empire napoléonien s'écroule par pans entiers. C'est l'Allemagne en 1813, c'est l'Italie en 1814. Eugène de Beauharnais tente de résister à l'attaque autrichienne, mais son espoir de garder le royaume d'Italie s'évanouit après les violentes manifestations anti-françaises qui donnent lieu au massacre du ministre des Finances du royaume d'Italie, l'infortuné Prina, et qui est lynché à coups de parapluie. Vous voyez ici une scène où l'homme est à terre et après avoir essayé de se réfugier dans cette boucherie, pour ne pas compromettre les habitants, il est sorti dehors et il est alors lynché. Cela exprime assez bien l'attitude des Italiens, de beaucoup d'Italiens, vis-à-vis de la présence française. Eh bien, Murat, lui, est rentré précipitamment de Russie pour sauver son trône. Il s'allie avec Vienne et fournit des contingents pour battre Napoléon en 1814. Mais au congrès de Vienne, le trône de Naples est restitué au Bourbon. Eh bien, après le retour de l'île d'Elbe de Napoléon, Murat se retourne contre l'Autriche et le 30 mars 1815, il lance l'appel de Rimini. C'est un appel qui est adressé au peuple italien tout entier, pour la liberté, pour l'unité, pour l'indépendance nationale. Il n'a pas eu un grand écho, il sera battu par l'armée autrichienne à Tolentino, et vous savez qu'en tentant de reconquérir le royaume de Naples, il sera fusillé sur la plage de débarquement. Mais l'appel de Rimini est considéré par un certain nombre d'Italiens comme un acte très important pour le Risorgimento. Alors, le congrès de Vienne, qui est basé sur le principe de légitimité, c'est-à-dire celui des souverains ayant reçu leur couronne de Dieu, tend à revenir à la carte d'avant 1789. C'est ce qu'on va appeler la restauration. Ce sera ma troisième partie. Eh bien, l'Italie se retrouve divisée entre 8 États. Mais, vous voyez, un changement. L'Autriche a annexé la Vénétie et avec la Lombardie qu'elle possédait, elle crée un nouvel État qui s'appelle le Royaume Lombard-Vénitien. L'empereur d'Autriche en est le souverain. C'est un peu à la manière de Napoléon. Les duchés de Parme et de Modène sont confiés à des Autrichiens, des princes autrichiens, comme la principauté de Lucques. Et de même, le retour des grands ducs de Toscane à Florence. Marie-Louise, la femme de Napoléon, va donc recevoir à titre viager le duché de Parme. Alors, le Piémont de Victor Emmanuel va donc récupérer la Savoie et Nice et l'ancienne République de Gênes. Vous voyez, la République de Gênes est complètement supprimée. C'est donc le retour au morcellement politique, douanier, qui facilite d'ailleurs la mainmise de la puissance autrichienne, présente par ailleurs, par exemple dans les États du Pape, par certaines garnisons. Et un traité d'alliance avec Naples. C'est l'absolutisme préconisé et représenté par Metternich, l'homme de l'expression géographique, hein, l'homme de la Sainte Alliance, qui veille au maintien du principe de légitimité et qui est prêt à combattre toute velléité d'indépendance. Alors, c'est au Piémont, à Naples et dans les États pontificaux que la réaction est la plus vive avec la prépondérance de l'aristocratie et du clergé. Alors, je vais vous donner un exemple. À Rome, la législation française et le code civil sont abolis. L'état civil est supprimé. De même que l'éclairage des rues. Parce qu'il est français, on ne veut plus de l'éclairage des rues au gaz. La vaccine est supprimée et les juifs qui avaient été libérés au nom des principes de 89 se retrouvent dans leur ghetto. Alors ça ne veut pas dire que les progrès impulsés par les Français sont totalement disparus et partout, mais l'amorce d'unification de la période précédente semble terminée au grand désespoir d'un certain nombre de patriotes. Alors, quelle va être la réponse à cet état de fait? Cette réponse, bon, on peut la trouver dans la presse, mais celle-ci est très surveillée, la censure veille. Alors l'opposition, d'une partie de la bourgeoisie et de l'armée d'ailleurs, va passer surtout par les sociétés secrètes. Alors la plus célèbre, c'est celle des Carbonari. Alors, l'origine des Carbonari est sans doute à chercher du côté de la Franche-Comté, dans une sorte de franc-maçonnerie du bois. Elle serait née parmi les forestiers du Jura, et elle aurait été acclimatée à Naples par un Français au temps de Murat. Alors, cette charbonnerie est très fragmentée, de façon à éviter la répression. Les personnes sont groupées par par 5 ou 6, par 7 ou 8. Et elle séduit surtout les militaires et une partie de la bourgeoisie. Mais elle n'a aucune attache avec les classes populaires. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu parler des classes populaires. Elles n'ont aucun rôle jusqu'à présent. Alors le programme de la franc-maçonnerie est plutôt flou. Certains groupes se satisfont de concessions libérales. D'autres désirent combattre les régimes autoritaires, voire même chasser l'occupant autrichien. À deux reprises, ces sociétés vont déclencher un mouvement révolutionnaire. En 1820, le général Pépé, à Naples, soulève ces sociétés et impose au roi Ferdinand une constitution. Et la même chose arrive par l'intermédiaire d'un colonel et d'une garnison à Turin, auprès de Victor Emmanuel Ier. Aussitôt, les Autrichiens interviennent avec l'appui de la Sainte Alliance et matent très rudement ces mouvements. Les constitutions sont abolies. Victor Emmanuel, qui l'avait accordé, abdique en faveur de son frère Charles Félix. Alors, des carbonari sont arrêtés. Le plus célèbre d'entre eux, c'est sans doute à cette période Silvio Pellico. Silvio Pellico, qui a participé donc à en 1820 à ce soulèvement, va passer 10 ans dans la forteresse du Spielberg en Moravie. Et il en tirera Méprison, qui sera un grand succès de librairie, de littérature. Beaucoup de libéraux s'exilent vers la France. Alors, en 1830, on retrouve un même mouvement, mais cette fois-ci dans l'Italie centrale. C'est à Parme, à Modène, dans le nord des États pontificaux. Sous l'autorité d'un certain Menotti, ils s'insurgent quand ils apprennent que les Trois Glorieuses de juillet 1830 ont triomphé à Paris. Et ils espèrent l'aide des Français. Mais cette aide ne vient pas et l'Autriche n'a aucun mal à rétablir l'ordre et à imposer la répression, notamment Menotti sera exécuté. Alors ce double échec, 1830-31, signe le déclin des Carbonari, trop inefficaces, trop isolées dans la société italienne. Et c'est donc on s'aperçoit que l'unité ne passera pas par des coups de main violents et mal préparés. C'est une leçon pour l'avenir. Et cet avenir est préparé d'une manière beaucoup plus solide dans la période qui suit. Ce sera donc ma troisième partie. C'est une réflexion sur le Risorgimento qui aura lieu surtout dans les années 1840. La situation politique n'a pas changé. Cependant, ceux qui ont été exilés ou qui se sont exilés par précaution mènent une réflexion sur les conditions nécessaires au succès futur du Risorgimento. Alors, plusieurs voies sont théorisées. D'abord, celle de Mazzini. Mazzini est un carbonaro génois réfugié à Marseille après l'échec de 1831, où il fonde la Jeune Italie, avec une revue où il expose son programme, dans la ligne du romantisme triomphant de l'époque, contre les princes, obstacle à la liberté, il faut la République. Contre les particularismes locaux, il faut l'unité. Mais cette unité, pour Mazzini, n'est qu'un élément d'une perspective beaucoup plus vaste, d'une mission plus vaste. C'est celle que Dieu confie à chaque peuple et qui représente sa part dans les progrès de l'humanité. D'où le mythe, chez Mazzini, d'une troisième Rome, après la Rome antique, la Rome des papes, la Rome qui va éclairer le monde et apporter la liberté à beaucoup de peuples européens qui sont dans la même situation, ne serait-ce que les Allemands, par exemple, les Polonais, entre autres. Aussi, à Genève, Mazzini va créer une autre société qui s'appelle la Jeune Europe, qui reprend ses thèmes dans une atmosphère de mysticisme religieux, Sa devise est Dieu et liberté. Et voyez ce personnage. C'est un homme de haute stature morale, qui est toujours habillé de noir, en deuil d'une patrie non encore obtenue. Et c'est un ascète, mais en même temps un mystique. Et il a la capacité d'entraîner un certain nombre de gens autour de lui. Et pour arriver à ses fins, il estime que les Italiens ne doivent compter que sur eux-mêmes et sur l'insurrection populaire. Alors, ses modèles, c'est la Vendée sous la République française ou l'Espagne sous Napoléon. Alors, cette propagande va entraîner un certain nombre d'insurrections nouvelles, mais toutes réprimées facilement. La plus célèbre, c'est celle de 1834, où le jeune Garibaldi, qui commande un bateau de la marine sarde, un bateau marchand, et qui était devenu adepte de la jeune Italie, essaye de soulever la ville de Gênes. Il est condamné à mort par contumace. Il s'exile en France, puis en Amérique du Sud. Alors, on ne le revoit plus avant 1848. Alors, il ne sera presque pas question de lui ce soir. Alors, la solution de Mazzini, du fait de ses échecs récurrents, apparaît à cette époque-là comme une impasse. Et alors, tente à s'imposer le Risorgimento des modérés. Au moment où l'Italie commence à se moderniser, à connaître un certain essor économique qui favorise la bourgeoisie, et il y a tout un courant de pensée qui estime que la modernisation est un bon préalable à l'unité. Et plusieurs voies, alors, sont offertes pour arriver au triomphe du Risorgimento. Alors, il y a d'abord celle de l'abbé Gioberti. C'est un mazzinien à l'origine, exilé lui aussi, mais qui en 1843 publie Il Primato, où il défend l'idée qu'une église rénovée pourrait se mettre à la tête du monde moderne et donc accomplir la régénération de la péninsule. Aussi préconise-t-il une confédération d'États qui serait présidée par le pape. Et ce pape, il vient d'être élu en 1846, c'est Pie IX. Vous savez que c'est le plus long pontificat de l'histoire, 32 ans, et il a été élu en 1846 contre le candidat des Autrichiens, ce qui est vu par les patriotes italiens comme un mérite extraordinaire. Mais en même temps, ce jeune pape a inauguré son règne par quelques réformes et surtout, il a amnistié les condamnés politiques de la période précédente. D'où des manifestations d'enthousiasme dans toute l'Italie. Et là, un des grands signes de religion, de ralliement, c'est « Viva Pio Nonno », « Vive Pie IX ». Donc, voilà une solution. Nous passons à un autre personnage, c'est Cesare Balbo. C'est un historien qui a écrit en 1844 « Les espérances de l'Italie ». Il critique, quoi qu'il lui soit favorable, le fait que Gioberti n'a pas tenu compte des Autrichiens. Comment chasser les Autrichiens d'Italie? Alors pour lui, pas par une guerre. Mais en espérant que la question de l'indépendance se réglera par la négociation internationale sur la question d'Orient. Alors l'Autriche aurait des compensations du côté de l'Empire turc et elle serait alors poussée à concéder le royaume lombard-vénitien au Piémont, donc constituer un noyau pour l'Italie. Disons que cette solution suscite un espoir bien mince. Alors il y a un troisième personnage, Massimo d'Azeglio. Il a écrit un ouvrage aussi, Programme pour une opinion nationale. C'est un aristocrate monarchiste. Ici il est photographié, c'est un officier, ami de Charles Albert, roi de Piémont. Alors, il est partisan de réformes, élection des conseils communaux, des conseils provinciaux, unification des poids et mesures, et il affirme que l'unité ne pourra se faire que par la guerre contre l'Autriche, et que c'est le roi de Piémont qui doit la conduire, car il ne faut pas compter sur les autres États européens. Charles Albert est en effet un roi élevé en France, teinté d'un certain libéralisme, monté sur le trône en 1831, et qui modernise son pays en promulguant une constitution, il statute. Aussi plaît-il aux patriotes. Ben, c'est un esprit tourmenté, mystique, jaloux de son pouvoir. Alors j'ai donné tous ces noms illustres pour les partisans du Risorgimento qui prend forme, pour vous montrer l'effervescence des idées unitaires dans ces années 1840, toute l'exaltation nationale qui existe autour de ce programme. Il faudrait ajouter la renaissance des études historiques, César et Balbo, sur les grandes périodes du pays. Toute une littérature illustrant les moments dramatiques du passé. D'Azeglio est un de ses littérateurs. Les mémoires des proscrits, Silvio Pellico. La musique, qui traduit l'aspiration à la liberté. Alors, c'est par exemple Rossini. Rossini et son Guillaume Tell, 1829. En fait, Guillaume Tell a été joué à Paris, mais vous voyez l'allusion, hein, le Guillaume Tell combat le bailli Gessler, qui est le représentant des Autrichiens. Il y a donc un transfert facile à faire. Mais enfin, c'est surtout Verdi. Verdi, avec son Nabucco, le chant des esclaves, le cœur des esclaves, bien entendu. Il y a aussi là une facilité de comprendre, hein, ces esclaves italiens face aux Autrichiens. Et puis en 1849, il produit la bataille de Legnano, où Roland, il y a le chœur dans l'ouverture, chante « Viva Italia ». Mais Roland chante « Que vienne vite le jour qui se lèvera contre le funeste Autrichien ». Puis le chœur « Nous jurons de mettre fin au malheur d'Italie en chassant ses tyrans au-delà des Alpes. » Verdi est tout fier que son nom serve de drapeau au mouvement en faveur du roi du Piémont. Vous connaissez tous les V-E-R-D-I, Victor Emmanuel, roi d'Italie, avec le W devant, les deux V de Viva qui sont aussi inscrits. Il faudrait ajouter à cela le développement de la presse modérée, et on voit apparaître Cavour. Cavour, en 1847, crée Il Risorgimento à Turin. C'est un journal. Il y a des revues. Il y a donc toute une prolifération de signes qui montrent l'exaltation patriotique. Et à l'automne 1847, un jeune étudiant de 20 ans qui s'appelle Mameli écrit « Fratelli d'Italia », mis en musique par un de ses camarades en 1848, et ce chant va devenir aussitôt l'hymne de la libération et de l'unité. Et il traduit tout à fait cette exaltation. Je cite quelques passages caractéristiques. Il commence par « Frères d'Italie, l'Italie s'est levée ». J'y viens dans quelques instants. Charles Albert vient d'entamer les opérations contre les Autrichiens. L'Italie s'est levée du casque de Scipion, et l'allusion à l'Antiquité. Elle s'est ceint la tête. Un peu plus loin, nous avons été depuis des siècles piétinés, moqués, parce que nous ne sommes pas un peuple, parce que nous sommes divisés, que nous rassemble un unique drapeau, un espoir. De nous fondre ensemble, l'heure a déjà sonné. Et le refrain, c'est « Serrons-nous en cohorte, nous sommes prêts à la mort, l'Italie nous a appelés. » Donc, vous voyez, il ne manque plus qu'une étincelle pour embraser cette population qui attend l'unité et l'indépendance. Eh bien, cette étincelle arrive en mars 1848. Et ce sera donc ma dernière partie. L'étincelle, elle est provoquée par la révolution à Vienne, en mars 1848. Vous savez que notre révolution, elle date de février. Donc, notre révolution de février inaugure ce qu'on a appelé le printemps des peuples. Tous les peuples qui avaient à se plaindre, soit de ne pas avoir une patrie, soit d'être dirigés par des autorités issues de la légitimité et plus ou moins dictatoriales, se sont sentis intéressés par cette révolution. Eh bien, la révolution de Vienne va entraîner aussitôt la révolution à Milan. Milan se soulève, chasse les Autrichiens, crée un gouvernement provisoire. Et puis c'est Venise qui proclame aussitôt la République, l'ancienne République. Parme et Modène suivent le mouvement. Poussé par ses succès en quelques semaines, le Piémont déclare la guerre à l'Autriche, le 23 mars. Vous voyez, c'est en quelques semaines, tout se passe. Et passe à l'attaque, en remportant quelques victoires. Alors, on va voir, donc, voilà, Charles-Albert. Passons ses troupes en revue, on les voit vaguement par derrière, caracolant sur un beau cheval blanc. Et il va trouver en face lui un homme célèbre, le maréchal Radetzky. Le maréchal Radetzky, qui est déjà un vieux maréchal d'origine tchèque. Et Charles-Albert, devant la surprise causée, va remporter quelques victoires. Mais les Autrichiens de Radetzky se replient en bon ordre sur ce qu'on appelle le quadrilatère. Alors, voyez le quadrilatère en haut à gauche. Alors, c'est un quadrilatère composé par quatre forteresses très puissantes, notamment celle de Mantoue. Et vous voyez, il y a Peschiera, Vérone et Legnano sur l'Adige. Donc, vous voyez, c'est un quadrilatère qui s'appuie sur l'Adige, sur le lac de Garde. Mantoue est proche du Pau. Donc, vous voyez, c'est un espace très fortement gardé. Mais ces premières victoires déclenchent un enthousiasme extraordinaire en Italie. Et des contingents affluent des autres États. 16 000 hommes de Naples avec le général Pépé, 8 000 de Toscane, et même environ 1 000 personnes des États pontificaux, avec un général, Pie IX, a donc accepté que les troupes de son État rejoignent les Piémontais. Mazzini dissout la jeune Italie et offre sa participation au roi. Garibaldi rentre d'Amérique du Sud et offre son épée au roi. Parme, Modène, Milan, Venise votent leur rattachement au Piémont. Et la Sicile offre la couronne, la Sicile souvent révoltée d'ailleurs, offre la couronne au deuxième fils de Charles-Albert. Tout cela donc en un mois, deux mois, pas plus. Cependant, les choses se gâtent. Dès le mois d'avril, quand Pie IX décide de retirer ses troupes, arguant du fait qu'un pontife, pasteur de tous les chrétiens, ne peut pas faire la guerre à une partie d'entre eux. Alors là, c'est la fin de la solution Gioberti. Enfin, il n'est plus question que Pie IX vienne à présider l'Italie future. Puis c'est le revirement du grand-duc de Toscane et du roi de Naples qui voit que devant l'enthousiasme suscité, eh bien, il risque de tirer les marrons du feu pour Charles-Albert de Piémont. Les Lombards révoltés voudraient que le Piémont fasse appel à la France, mais Lamartine, qui dirige la France à l'époque, au tout début de la Révolution, a proclamé que la Seconde République n'entreprendrait pas de guerre extérieure comme sa devancière et donc qu'elle ne viendrait pas au secours de quelque État ou de quelque révolution que ce soit. D'autre part, il faut dire que notre jeune République est bien instable et pas très solide encore. Et au mois de juin, elle le sera encore moins. Donc, quand les Autrichiens reprennent l'offensive en juillet, eh bien, Charles-Albert est isolé. Alors, les troupes venues d'Autriche envahissent la terre ferme de Vénétie, font leur jonction avec Radetzky, et Radetzky peut reprendre l'offensive, et une bataille décisive s'engage à Custozza. Vous voyez, vous avez je pense que c'est les Italiens d'un côté, les Chacos autrichiens de l'autre, et à Custozza, eh bien, les Piémontais sont vaincus. Milan est réoccupé, et le 3 août, un armistice est signé à Salasco qui ramène le statu quo ante. Car à Vienne, comme presque partout en Europe, eh bien les forces de la réaction viennent d'écraser les révoltes et la Hongrie, qui résistait tant bien que mal, sera vaincue avec l'aide des Russes. C'est donc la faillite aussi de la solution modérée basée sur l'offensive piémontaise. Mais les patriotes n'ont pas dit leur dernier mot. Et la place est libre pour la solution mazzinienne, c'est-à-dire celle des mouvements révolutionnaires, qui vont prolonger jusqu'en 1849 les tentatives pour secouer le joug italien. Cela commence par la proclamation de la République à Venise par Manin ou Manin, je ne sais pas comment on dit exactement, qui est de la famille des doges de Venise, et une insurrection par la suite va contraindre le grand-duc de Toscane à octroyer une constitution, et même demander le rassemblement d'une assemblée constituante italienne. Mais le duc s'enfuit à Gaète, à la limite des États pontificaux et du royaume de Naples. En novembre, Pie IX doit s'enfuir de Rome lui aussi, pour Gaète, contesté après sa décision de quitter le combat national et poussé par une émeute victorieuse à la suite de l'assassinat d'un ministre réformateur, Pellegrino Rossi. Alors, une république romaine est proclamée la république vénitienne. Voilà, la république romaine, vous voyez, au milieu d'un concours de peuples avec des drapeaux, je pense qu'on reconnaît un certain nombre de monuments romains. Alors, la république romaine est proclamée par un triumvirat à la tête duquel viendra se placer Mazzini en personne, avec Garibaldi, et elle décide de déchoir le pape de son pouvoir temporel, tout en lui assurant les conditions d'exercer son magistère spirituel. Alors, cette vague démocratique n'épargne pas le Piémont, où les libéraux savoyards posent nettement la question du rattachement à la France. Gênes, qui avait mal accepté son annexion, est aussi travaillé par des mouvements démocratiques. Charles-Albert lui-même est obligé de confier le ministère aux patriotes et de nommer l'abbé Gioberti comme chef du gouvernement en décembre 1848. Mais celui-ci est combattu par ceux qui veulent reprendre la lutte contre l'Autriche et il est obligé de démissionner, partir en exil, où il mourra quelques années plus tard. Le ministère passe alors aux mains de Ratazzi, dont nous parlerons la prochaine fois, partisan de la reprise de la guerre avec les patriotes et les militaires. Alors, du fait de cette effervescence, création de république, de constitution, de mouvements divers, Charles-Albert craint pour sa couronne. Et il dénonce l'armistice le 14 mars 1849, et par une sorte de fuite en avant, s'engage dans une campagne avec une armée désorganisée. Elle a été vaincue quelques mois auparavant, et elle n'a pas de grand chef. On a été obligé de faire appel à un Polonais, un général polonais, qui ne parle pas l'italien. Vous voyez que ça ne se facilite pas, sans doute, le contact avec les troupes. Eh bien, la campagne s'achève au bout de 9 jours, le 23 mars, par une écrasante victoire de Radetzky à Novare, et Charles-Albert abdique sur le champ de bataille en faveur de son fils, Victor Emmanuel II, c'est celui que vous retrouverez la prochaine fois. Charles-Albert part en exil à Porto, au Portugal, où il meurt 4 mois plus tard. Il était grièvement malade. Alors, les conditions de l'armistice sont très dures. Le Piémont perd toutes les conquêtes qui avaient été opérées, doit payer une indemnité de guerre très lourde. Et à partir de là, les régimes libéraux qui s'étaient mis en place s'écroulent comme des châteaux de cartes. L'Autriche remet le grand-duc Léopold sur le trône de Toscane. Le roi de Naples rétablit son régime, reprend la Sicile insurgée. Et le 30 juin, Mazzini et Garibaldi, au terme d'une lutte acharnée, d'une farouche résistance, voyez ici Garibaldi, entouré de quelques fidèles, eh bien, doit céder devant le corps d'armée du général Oudinot, bien français. Il est envoyé par le prince-président Napoléon Bonaparte. En effet, dans notre pays, on va voir Oudinot, c'est le fils du maréchal Oudinot qui est assez célèbre à l'époque de Napoléon Ier. Les forces conservatrices de notre pays avaient pris le dessus sur les classes populaires lors des terribles journées de juin 48, déroulées à Paris et notamment dans l'est de Paris. Et le parti de l'ordre, comme on disait, avec un O majuscule, et qui est composé de royalistes et de catholiques, s'était emparé du pouvoir. Or, ceux-ci avaient été très choqués par la fuite du pape et la disparition des États pontificaux. En effet, le pouvoir temporel du pape est chez les catholiques de cette époque considéré comme une sorte de dogme, comme tout à fait nécessaire à l'exercice de son magistère spirituel. Alors, pour complaire au parti de l'ordre, le prince Napoléon a donc envoyé une expédition de 30 000 hommes contre la République romaine, et on a assisté à cette chose assez étonnante, c'est que la République romaine a été abattue par la République française, alors qu'elles avaient toutes les deux la même origine, le développement du printemps des peuples, et un type de fonctionnement similaire. Eh bien, Venise, assiégée, va résister jusqu'en août 1849, et c'en est fini des révolutions italiennes de 1848. La répression s'abat sur la péninsule, comme après 1815. Alors, il nous reste à conclure. Il y a dans tout cela des leçons qui sont riches pour l'avenir. Il y en a au moins 3. La première, c'est que l'idée nationale a fait l'objet d'un consensus élargi et a pénétré une majorité de la population, même s'il y a des paysans pauvres, miséreux, qui, éloignés dans leur campagne, ne sont encore pas concernés. Et c'est différent des périodes principales où c'était surtout les élites bourgeoises qui étaient sur l'avant-scène. Les idées libérales et démocratiques ont été associées à ce patriotisme naissant. Et il est apparu évident que l'unité ne pouvait être faite ni par entente entre les princes, ni par une entreprise révolutionnaire. Deuxième conclusion, c'est que pour chasser l'Autriche d'Italie, il faut un État fort et jouissant d'une grande popularité. Ce ne peut être que le royaume de Piémont. Auréolé du martyre de son roi, gravement malade, qui a abdiqué sur le champ de bataille, qui a sacrifié sa couronne, et le prestige en est reporté sur le fils, qui a 28 ans, et qui a la sagesse de maintenir la constitution accordée par son père et les institutions libérales. Donc, le Piémont va rester, dans la période future, le phare vers lequel les regards sont tournés. Enfin, troisièmement, il est évident que le petit Piémont, et même les Italiens réunis, ne pourront vaincre même l'Autriche, même si celle-ci n'est plus une puissance de tout premier ordre. Il sera nécessaire de s'appuyer sur une grande puissance. Alors, il y avait la formule de la libération par les Italiens eux-mêmes. En italien, ça donne « Italia faradasse ». Eh bien, « Italia faradasse », ça ne peut pas être envisagé. Il faut donc que le Piémont s'allie à une grande puissance pour réaliser le rêve italien. Cette puissance a toute chance d'être la France, et ce sera la grande tâche de Cavour et de Victor Emmanuel II. Je vous remercie.